Pour notre chronique nature du jour, on retrouve Pierre Maussan. Bonjour Pierre Maussan.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Pierre Maussan, le directeur du Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, autrement dit le CEN, C-E-N. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce qu'on appelle la compensation écologique. Parce que la nature évolue, on l'a vu déjà dans la première chronique. C'est souvent d'ailleurs les terres agricoles qui trinquent.
Absolument, oui. Lorsque les activités humaines se développent, on construit une route, on construit une zone d'activité, un lotissement, etc. Forcément, dans la plupart des cas, c'est aux dépens de terrains agricoles ou de terrains naturels. Alors on en a malheureusement des exemples, il y en a partout, mais autour de Clermont-Ferrand, quand on voit les secteurs où a été construite la grande halle d'Auvergne, c'était sur des terres agricoles très riches, évidemment. Sur le secteur de Rion, la nouvelle prison de Rion a été construite aussi sur des terres agricoles.
Ikea aussi ?
Ikea, absolument. Et donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience et l'idée de dire qu'il faut arrêter ce qu'on appelle l'étalement urbain, en tout cas le limiter. On n'arrête pas de se développer, mais essayer de le compenser. Ailleurs, on a d'autres exemples, je pense notamment en Auvergne, le contournement routier du Puy-en-Velay ou alors des travaux routiers récents qui ont été faits à l'ouest d'Aurillac, où là, c'est vraiment sur des espaces naturels, des secteurs de forêt ou de zones humides que les dégradations, enfin que les infrastructures ont été construites. Et donc tout ça fait que au fur et à mesure qu'on aura des activités humaines et des villes qui s'étendent, les espaces naturels, eux, ils disparaissent tout le temps et on n'a jamais d'éléments de retour en arrière.
Et que dit la loi ?
Alors justement, c'est pour essayer de limiter ça que plusieurs textes de loi et une récente loi sur la biodiversité, et qui s'appelle d'ailleurs sur la reconquête de la biodiversité, dit qu'il faut arrêter cet aspect de destruction et que quand on détruit, il faut mettre en place des processus de compensation écologique. Donc celui qui mène le projet, que ce soit l'État ou un privé, doit prouver qu'il a essayé de limiter ses impacts et voire même qu'il compense. Alors la loi définit ce qu'on appelle une séquence en trois lettres, ERC, pour éviter, réduire, compenser. Alors ça veut dire quoi ? Éviter, c'est quand vous allez travailler sur votre projet, vous construisez votre route. Si le tracé que vous avez sélectionné passe par exemple à travers une zone humide, on va vous demander de dire essayez de déplacer votre tracé pour ne pas traverser la zone humide et ne pas la dégrader. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut mettre en place un projet en essayant de réduire les impacts. Un exemple, quand on a une zone d'activité ou un centre commercial, on n'est pas obligé d'imperméabiliser toutes les surfaces pour essayer de limiter l'effet. On peut avoir des parkings qui soient en partie végétalisés, qui permettent à l'eau de s'infiltrer et on limite l'effet. Quand on a une voie ferrée qui traverse une ligne à grande vitesse, une LGV qui traverse une vallée, plutôt que la faire se rembler, c'est-à-dire où on empile de la terre et puis elle passe dessus et ça fait vraiment une barrière, on peut la faire sur un pont, c'est certes plus cher, mais on réduit l'impact.
Voilà, là on réduit donc l'impact sur la nature, sur l'environnement.
Voilà, éviter, réduire, et puis au final on a toujours un effet qui reste, et donc celui-là, la loi dit aujourd'hui qu'il y a une obligation de compensation.
Alors compenser, mais c'est pas toujours évident, et compenser quoi, quand ?
Alors la compensation, c'est, nous dit la loi, recréer des espaces naturels ou au moins les restaurer, c'est-à-dire des espaces qui étaient en mauvais état, pouvoir les restaurer, les remettre en état. Alors ça veut dire la première chose qu'il faut arriver à mesurer ce qui a été détruit.
Oui.
Donc ça, c'est une obligation aussi qu'ont les maîtres d'ouvrage. Ça s'appelle une étude d'impact. On doit essayer d'évaluer le plus précisément possible ce qui est détruit au final par un projet. Et c'est souvent effectivement assez compliqué. Et puis ensuite, recréer un espace naturel, on voit bien que c'est un peu antinomique comme appellation. Un espace naturel, le recréer, c'est très difficile. On est plutôt aujourd'hui sur des opérations de restauration où on prend des espaces naturels qui étaient abîmés par des activités humaines et on profite de cette obligation de compensation pour essayer de les remettre en état. Et ce que nous dit la loi aussi, c'est qu'il faut essayer de recréer ou de restaurer des milieux qui sont très proches de ce qui a été détruit, c'est-à-dire qu'on doit remplacer une zone humide par une autre zone humide et non pas par un bout de forêt qu'on va protéger ailleurs, et le plus près géographiquement, de manière à ce que sur le territoire, la compensation doit se faire sur le territoire qui a subi la dégradation.
Oui, mais ça ne doit pas toujours être évident.
Alors pour certaines choses, c'est assez facile. Par exemple, si on prend une mare qui est comblée, on peut assez facilement recréer une mare à côté. C'est des milieux qui fonctionnent assez bien. Les grenouilles, les tritons, les plantes aquatiques vont rapidement pouvoir reconquérir la nouvelle mare. Quand on est sur une zone humide, un marais, c'est déjà un petit peu plus difficile de recréer un marais qui pourra être fonctionnel sur plusieurs dizaines d'années. Ça, c'est pas simple. Sur une forêt, on voit bien que si je coupe une forêt qui a dans les arbres en plusieurs dizaines d'années, c'est pas en replantant une autre forêt à côté que je vais la remplacer.
Oui, parce qu'il il faudra du temps,
un siècle, deux siècles, trois siècles. Et alors quand on est sur une tourbière, une zone humide particulière qui a 10 000 ans, qui provient de dernières glaciations, là évidemment la compensation est quasiment impossible.
Est-ce que ça veut dire qu'on chiffre du coup le coût d'une mare, d'une forêt, d'une...
Absolument, c'est effectivement ce qu'a introduit cette loi pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que comme on se rend compte de cette difficulté, eh ben on passe dans un monde économique par une évaluation financière, mais qui est effectivement très délicate. Alors il existe des méthodes, mais comment évaluer ce que coûte, ce que représente une mare, ce que représente une grenouille, ce que représente un Milan Royal.
Et puis est-ce que toutes les mares se valent?
Exactement.
Est-ce que tous les arbres se valent?
C'est compliqué. Toute la difficulté effectivement de cette équivalence qui doit être faite. On doit essayer de transformer ça en une valeur monétaire de manière à ce que derrière on sache quel est l'effort financier que doit réaliser celui qui conduit le projet. Mais c'est effectivement compliqué et puis c'est assez pervers parce qu'à partir du moment où on passe dans une démarche financière, eh ben on voit bien qu'on rentre dans un système un peu différent où on peut dire ben voilà, bon, il suffit que je paye et puis j'ai le droit de détruire. Il y a une sorte de droit à détruire qui peut se mettre en place, comme dans le cas du carbone on a parfois, disent certains, un droit à polluer qui existe.
C'est un peu l'effet pervers, en effet.
Absolument.
Quelques exemples.
Pour une association gestionnaire d'espaces naturels comme le Conservatoire, c'est vrai qu'on s'est posé la question et on a décidé de se positionner sur la mise en œuvre de mesures compensatoires en essayant de le faire dans le meilleur cas possible. Alors on a par exemple travaillé en Haute-Loire avec Réseau Transport d'Électricité dans le cadre de travaux où ils refaisaient une ligne électrique. Ils avaient un impact sur un secteur de forêt. On a décidé avec eux d'acheter 5 hectares de forêt ancienne qui du coup ne seront pas coupées, pourront évoluer naturellement, et là on s'inscrit dans la durée. Autre exemple d'action qui a été menée dans le cadre de la construction de cette ligne, ils ont détruit des secteurs de haies parce qu'il fallait qu'ils passent pour pouvoir construire la ligne, et ils nous ont financé des travaux. Donc on a pris contact avec des propriétaires pour leur proposer de replanter des vergers pour compenser ce qui avait été détruit, et les travaux ont été financés par RTE, et les propriétaires privés sont engagés sur le long terme à conserver ces vergers. On a aussi des actions qui ont été menées dans le Cantal, par exemple, dans l'ouest du Puy-de-Dôme, en faveur de zones humides, où on a acheté des zones humides, et là aussi on les a préservées sur le long terme, en mettant en place, en lien avec les agriculteurs, des opérations de gestion et de restauration écologique.
Donc on voit bien que ce système de compensation écologique, ça reste nécessaire, c'est intéressant, mais ce n'est pas idéal non plus.
C'est pas idéal parce qu'effectivement c'est un système imparfait mais qui est nécessaire. Sinon, de toute façon, les aménagements se font et des espaces naturels sont détruits. Donc il faut mettre en place ce dispositif de la compensation, essayer d'éviter de rentrer dans des démarches trop financières, trop spéculatives comme on le voit dans d'autres pays. Et puis ce qui est important, c'est qu'il y ait un encadrement, c'est-à-dire que ce ne soit pas les maîtres d'ouvrage seuls qui déterminent quelle doit être la compensation. Il faut que la puissance publique, les services de l'État, le ministère, les autorités puissent contribuer à encadrer cela. Mais effectivement, c'est un système qui peut être intéressant et qui va probablement se développer dans les années à venir.
Et peut-être s'améliorer, je l'espère. Donc aujourd'hui, ensemble avec Pierre Maussan du CEN, du Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne, on a évoqué ces fameuses compensations écologiques. À bientôt.
À bientôt.